marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire de Taïwan, où les nationalistes chinois s'exilent en 1949 suite à la prise de pouvoir de Mao sur le continent. Au nom de la lutte contre le communisme, le parti unique de Chiang Kai-shek perpétue son régime répressif jusqu'en 1980. Mais aujourd'hui, à Taïwan, la démocratisation impose de revisiter ce douloureux passé.
La démocratisation à Taïwan est déjà mûre. Ils sont fiers d'ailleurs que à Taïwan, on est presque le premier pays, le pays le plus libre et démocratique en Asie. C'est pour ça qu'ils commencent à vraiment dévorer tous les livres historiques sur le massacre et aussi sur la Terre blanche. Donc en fait, ils voudraient se préparer pour pouvoir empêcher le retour en arrière.
Et ce retour tant redouté de l'histoire à Taïwan, c'est celle de la terreur blanche, celle de la répression politique. L'arrivée à Taïwan du Parti nationaliste chinois en 1949 a ouvert une ère sombre pour cet archipel, jusqu'alors colonie du Japon. Pendant 40 ans, le dirigeant chinois, Chiang Kai-shek, puis son fils, imposent un régime autoritaire fondé sur un culte de la personnalité et sur un rêve, celui d'un retour en Chine continentale. Aujourd'hui, Taïwan veut réhabiliter les victimes de la terreur blanche, mais le bilan reste incomplet. 100 000 personnes arrêtées et au moins 1 600 condamnées à mort. Au nom de la lutte contre les communistes, la terreur blanche s'achève dans les années 80, avant la démocratisation du pays. Un long chemin qui permet aujourd'hui un consensus de se dégager parmi les Taïwanais, celui de l'attachement à leur système autonome et démocratique. Taïwan, un long chemin vers la démocratie, c'est un reportage long format proposé par notre correspondant Adrien Simor à Taipei.
Le mémorial de Chiang Kai-shek se trouve en plein cœur de Taipei sur une esplanade qui s'appelle aujourd'hui la place de la Liberté. Autour de cette place, il y a deux bâtiments majestueux construits à la même période. D'un côté, la salle de théâtre nationale et en face, la salle de concert nationale. Et au fond de la place, le mémorial, un grand bâtiment en pierre blanche avec un toit bleu. Je me trouve avec Pang Zhenyu, qui travaille pour la commission de justice transitionnelle qui a été créée en 2018 justement pour enquêter sur les crimes commis à Taïwan par le régime de Chiang Kai-shek et par celui de son fils, Chiang Ching-kuo. On va donc aller voir cette statue de Chiang Kai-shek qui se trouve à l'intérieur du mémorial. Mais d'abord, il faut se lancer dans la montée des marches, 89 très exactement. C'est l'âge de Chiang Kai-shek quand il décède, quand il meurt à Taïwan en 1975.
9, 10, 11, 12, 13. Je vais compter en chinois. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, c'est 84. Non, il y en a quelques.
Il reste quelques marches.
Il reste quelques marches. Voilà.
Alors, au sommet des 89 marches, c'est la récompense, une statue de bronze d'une dizaine de mètres du général Chiang Kai-shek. Et de l'autre, une vue magnifique sur Taipei et sur la place de la Liberté. Janu, on le mérite cette montée jusqu'à la statue de Chiang Kai-shek.
C'est comment des touristes arrivent souvent par les grandes marches pour mesurer justement la grandeur de cette allée. Je ne sais pas combien ça fait là, des centaines de mètres.
C'est immense. Ouais.
C'est immense. Et après, on monte l'escalier. En fait, pour vénérer la statue. Donc tout ça, en fait, c'est désigné pour vénérer un empereur quand il est décédé.
L'architecture, on a un peu l'impression d'être à Pékin, quelque
part. Complètement. Oui, au niveau de couleur et la forme, le style, nous rappelle complètement à Pékin, Zijingcheng.
La cité interdite.
La cité interdite. C'est beau. C'est beau, mais quand on pense qu'à l'origine, c'était vraiment construit pour vénérer Chiang Kai-shek, moi, je ne suis pas à l'aise. Mais les habitants autour, ou même pour les Taïwanais, ils ont oublié, en fait,
la connexion entre cette architecture et la dictature.
Autour de lui, il y a deux drapeaux de la République de Chine. Donc c'est la République de Chine qui a été proclamée en Chine. À une époque où Taïwan ne faisait pas partie
du tout. Donc c'était en 1912 et à l'époque Taïwan était encore japonaise. Donc à cette époque-là, c'est vrai que les Taïwanais de l'époque, même s'ils avaient la nationalité japonaise, ils espéraient que la Chine récupérait Taïwan à ce moment-là. Mais quand à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'armée nationaliste de Chine est vraiment arrivée à Taïwan, quand l'armée est vraiment venue, ils ont vu que finalement, ce sont des Chinois, mais les Taïwanais ont été traités de citoyens de deuxième voire troisième classe, puisque pour l'armée chinoise de cette époque, les Taïwanais ont été japonisés. Ils sont devenus des étrangers, en fait.
C'était des traîtres à la cause chinoise.
C'est ça.
Alors, Jianyu, 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Chiang Kai-shek perd la guerre civile face aux communistes de Mao Zedong et il se réfugie définitivement à Taïwan avec un peu plus d'un million de Chinois du continent. Et là, il poursuit les méthodes répressives qui étaient employées en Chine dans le cadre de la guerre civile. Sauf que à Taïwan, ça va durer plus de 40 ans. C'est une période qu'on appelle aujourd'hui la terreur blanche. Jianyu, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce qu'on entend par ce terme de terreur blanche ?
La terreur blanche, en fait, on peut appeler ça une répression politique systématique en employant des instruments juridiques pour, par exemple, des arrestations massives de tous les dissidents. Et après, il y a des condamnations, en fait, illégales pour condamner vraiment des centaines et milliers de personnes. Les peines qui ont été condamnées ne correspondent pas du tout à leurs actes. Par exemple, ils s'organisent juste pour lire le texte de Marx, tout simplement, ou des livres sur les socialistes, de la pensée socialiste. Ils ont été arrêtés et condamnés à 10 ans ou 15 ans en prison, voire ils ont condamné à mort à cause de lire un livre ou de chanter les chansons socialistes. Et il y a beaucoup de gens autour d'eux, ils n'ont rien fait. Mais à cause de cette soupçon presque paranoïaque, tous ces gens-là ont été pris comme des membres des filières. Voilà. Donc, même si à l'époque, la République de Chine est censée être un régime démocratique, mais finalement, il a construit une dictature sur l'île pendant plus de 40 ans.
C'est la relève de la garde.
C'est ça.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, oui, c'est bien chorégraphié. Donc je comprends pourquoi les touristes, ça intéresse les touristes. En fait, avant la deuxième élection de Tsai Ing-wen, la présidente Tsai, en fait, il y avait beaucoup de touristes chinois, en fait, la plupart. Ils sont venus ici pour... Il y en a même qui prenaient Chiang Kai-shek pour vraiment le symbole de l'espoir de la démocratisation de Chine, en fait. Donc, ils sont vraiment venus ici pour voir cette statue. Ils sont même émus. Hein. J'observe quelquefois. Ils sont très émus parce que la statue, il est là, il a l'air, il est assis, il est souriant, donc il a l'air très gentil, en fait. Donc on pensait que comparé à Mao Zedong, c'était un dictateur gentil, quoi. Il a tué peut-être quelques milliers de personnes, mais pas plus. Et des gens pensent même que c'était peut-être nécessaire à l'époque pour contraire l'invasion possible du Parti communiste chinois.
Mmh.
Mais une dictature ne se mesure pas en nombre de morts. La brutalité du régime nationaliste chinois se révèle aux Taïwanais dès le mois de février 1947, c'est 2 ans après le départ des Japonais. Tokyo est dans le camp des vaincus de la Seconde Guerre mondiale, ce qui entraîne la dissolution de son empire colonial et donc la restitution de Taïwan à la Chine. Mais les tensions avec les habitants sont croissantes. Le Parti nationaliste chinois est accusé de corruption et occupe les postes les plus importants de l'administration au détriment des Taïwanais déjà en poste. Le 28 février, alors que la foule se rassemble pour protester contre l'arrestation d'une vendeuse de cigarettes de contrebande, les soldats du pouvoir nationaliste ouvrent le feu. Sur l'ordre de Chiang Kai-shek, qui se trouve alors en Chine, des troupes sont envoyées sur l'île. La rébellion taïwanaise est écrasée dans le sang et on estime aujourd'hui qu'entre 5 000 et 30 000 personnes ont été tuées. Le père et le frère de M. Pan font partie des victimes du massacre.
Mon père s'appelle Pan Mu-zi. Il est un kaye-yi.
Mon père s'appelait Pan Mu-zi. Il était un médecin qui avait pas mal de succès à Jiayi, c'est une ville au sud de Taïwan. À l'époque, il était en même temps un membre du conseil municipal. Je pense que pour lui, le plus important, c'était Taïwan. Il n'était pas très intéressé par la politique et de plus, il était très très occupé dans son hôpital. Mais mon oncle, qui était son directeur dans l'hôpital, lui a conseillé et un peu poussé à se présenter en politique. Et c'est après ça que mon père s'est présenté dans les élections pour défendre ses idées qu'il a sur Taïwan. Mon père croyait en l'état de droit. Ce que c'est que l'occupation japonaise à Taïwan, c'était l'état de droit. Et c'était ce dont mon père croyait.
Monsieur Pan, quel rôle joue votre père dans les révoltes qui soulèvent Taïwan juste après le massacre du 28 février 1947?
Tous les conseillers municipaux de Taïwan avaient formé un comité du 28 février. Durant cette époque, des Chinois et des militaires étaient encerclés dans l'aéroport de Jiayi et des membres de la résistance de Taïwan avaient assiégé l'aéroport de Jiayi. Donc ces militaires et ces Chinois n'avaient pas de nourriture. À partir de l'aéroport assiégé, les militaires bombardaient la ville de Jiayi, ce qui causait beaucoup de blessés et de morts. Donc les membres du comité du 28 février étaient chargés d'aller négocier avec les militaires chinois qui étaient dans l'aéroport assiégé par des membres de la résistance de Taïwan. Le 12 mars, 2 camions s'étaient arrêtés devant l'hôpital de mon père. Le chef du conseil municipal de la ville de Jiayi est donc descendu du camion et est venu à mon père en lui disant qu'il avait mal au ventre. Donc il a demandé à mon père de le remplacer pour transporter ces 2 camions de nourriture vers les militaires. Mon père avait pensé que c'était une action humanitaire et avait donc accepté. Il avait donc pris le camion en route vers l'aéroport. Et ils ont été tous arrêtés. 2 jours après l'arrestation de mon père, mon frère est allé à l'hôpital et a annoncé à une infirmière « Je vais aller sauver mon père ».
结果就没有回来。
Un jour après, on nous l'a ramené sans vie.
Le 25 mars, votre père est exécuté aux côtés de 7 autres personnalités locales avant cette exécution. Est-ce que votre père a eu l'occasion de se défendre devant un tribunal? Est-ce que vous avez eu des explications quant à cette arrestation?
Rien de cela. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de tribunal. Un jour avant l'exécution de mon père, un policier lui a dit en secouant la tête, « Il n'y a plus d'espoir, ce sera demain, vous serez exécuté. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Vite, écrivez-le. » Et dans un paquet de cigarettes, mon père a écrit une dernière lettre à la famille. Il a d'abord présenté ses excuses à ma mère en lui disant qu'il était désolé pour l'avoir fait autant souffrir. Et à la fin, il a écrit « Je suis mort pour le peuple, je ne le regrette pas ».
Le massacre du 28 février 1947 est suivi de 38 ans de loi martiale à Taïwan. Comment vous avez traversé cette période et qu'est-ce que vous répondiez par exemple quand on vous demandait qui était votre père ?
Nous avons toujours évité de dire que nous sommes des membres de la famille, des victimes du massacre du 28 février. Parce que le massacre du 28 février était un tabou. Si tu en parlais, il était possible que tu te fasses arrêter.
Monsieur Pan, il faudra attendre 50 ans pour que le gouvernement taïwanais formule des excuses publiques et que plusieurs travaux officiels permettent de rétablir la mémoire des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce processus et est-ce que cela vous a aidé à pardonner ?
98%
Je suis satisfait à 98%. Mais il y a toujours les 2% qui restent. Et ces 2% représentent les statues de ce boucher qui a causé le massacre du 28 février. Pourquoi devons-nous, membres de la famille des victimes, revoir la statue de ce boucher si majestueusement et glorieusement est digérée? Pourquoi devons-nous avoir un si grand monument en mémoire de cet horrible boucher? Nous pouvons pardonner, nous pouvons tous pardonner. Même le boucher qui a causé ce massacre, nous pouvons même lui pardonner. Mais je ne peux pas oublier que c'est ce boucher-là qui a mis fin à mon enfance, qui a mis fin à ma si tendre famille. Nous devons faire connaître l'histoire aux jeunes gens pour ne pas que la tragédie se répète.
Le boucher dont parle M. Pan, c'est évidemment le général Chiang Kai-shek, qui est alors le président par intérim de la République de Chine. Et en 1947, c'est son gouvernement qui administre Taïwan depuis 2 ans. Au Musée national du massacre du 28 février 1947, où M. Pan a donné rendez-vous, le directeur du musée tient à montrer une preuve de l'implication directe de Chiang Kai-shek.
Ça, c'est un ordre écrit de la main de Chiang Kai-shek datant du 5 mars et envoyé au préfet Chen Yi à Taïwan. Ce document montre clairement que Chiang Kai-shek, qui était alors en Chine, a ordonné d'envoyer des troupes le 7 mars vers Taïwan. Tous nos documents démontrent qu'à l'époque, quand Chiang Kai-shek avait ordonné l'arrivée des troupes, le préfet Chen Yi détenait déjà en main une liste de personnes influentes à Taïwan qu'il fallait éliminer. Ces gens-là ont été assassinés ou bien exécutés en secret. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été retrouvés. La personne qui avait pris les décisions, c'était Chiang Kai-shek. Il n'y avait que Chiang Kai-shek qui avait le pouvoir de prendre ces décisions. C'est pour ça que selon nos documents, c'est Chiang Kai-shek qui devrait prendre les responsabilités. Le plus grand problème, c'est que ces gens-là n'ont jamais été confondus en justice. Maintenant, quand on en reparle, les gens disent que le gouvernement taïwanais n'a pas bien traité ce problème. Il y a eu tant de massacres, tant de gens tués, mais personne n'a été jugé, personne n'a été désigné responsable. C'est pour ça que les gens disent que le gouvernement n'a pas bien traité ce problème.
2 ans après le massacre, en 1949, le parti nationaliste chinois du Kuomintang se réfugie définitivement à Taïwan, car il est défait par les communistes sur le continent, et il impose aux Taïwanais une loi martiale pendant presque 40 ans. Monsieur Leo Chao-Yuan, vous qui êtes le directeur du musée national du massacre du 28 février 1947, Quelles ont été les conséquences de cette tragédie sur les mouvements de contestation taïwanais ?
Le massacre du 28 février est l'événement le plus important de l'histoire de Taïwan. C'est un événement qui a permis aux Taïwanais de réfléchir s'ils voulaient autre chose qu'une gouvernance chinoise. Après le massacre du 28 février, les Taïwanais n'ont même pas osé à en parler. C'est pour ça que quand le gouvernement de Chiang Kai-shek est venu à Taïwan en 1949, il a immédiatement instauré une période de terreur blanche sous loi martiale pendant 38 ans, durant laquelle les Taïwanais n'ont jamais osé parler du massacre. Mais cette partie de l'histoire a toujours vécu dans le cœur de certains Taïwanais.
Et pendant des décennies, ce que le parti unique au pouvoir nomme l'incident de 128 reste tabou. Mais avec la démocratisation de Taïwan, les archives sont ouvertes et les historiens encouragés à écrire l'histoire de la terreur blanche. 2 ans après la répression de 1947, le gouvernement central du Kuomintang est défait en Chine par les communistes de Mao Zedong. La République populaire de Chine est proclamée. Et plus d'un million d'hommes s'enfuient à Taïwan. Les bateaux sont tellement bondés qu'un navire, le paquebot Taiping, coule avec 1500 personnes à son bord. Mais le KMT, le Kuomintang, maintient ses méthodes répressives sur l'île de Taïwan et la contestation taïwanaise met alors une partie de ses espoirs dans l'idéologie socialiste. Certains montent même des clubs de lecture pour lire des ouvrages interdits à Taïwan. La répression est immédiate et aveugle. Si certains sont des communistes convaincus, beaucoup n'ont pas de convictions politiques. C'est le cas de Madame Zhang, née dans les années 30 et emprisonnée par le Kuomintang.
J'ai vu l'armée du Kuomintang arriver à Taïwan en 1949. Il ne ressemblait pas du tout à une armée organisée. Ce n'était pas comme les armées japonaises. Ils avaient des vêtements qui n'étaient pas propres. C'était un chaos dans la rue. Ils étaient très différents de nous, ils étaient pires que les Japonais, beaucoup plus corrompus. On pensait que leur arrivée entraînait une situation pire que la colonisation japonaise. À ce moment-là, tous les gens du Kuomintang étaient très énervés parce qu'ils venaient de perdre la guerre contre les communistes. Chiang Kai-shek, il a dit à Douman qu'il vaut mieux tuer 100 personnes innocentes plutôt que laisser un seul communiste parti. Donc, toutes les personnes qui dénonçaient ce qu'on appelait les bandits communistes pouvaient gagner 2000 dollars taïwanais. C'était beaucoup à cette époque-là. C'est pour ça qu'autant de personnes ont été arrêtées.
Madame Zhang, quel âge avez-vous au moment de votre arrestation ? Et pourquoi est-ce qu'on vous arrête ?
Quand j'ai été arrêtée, j'avais 18 ans. À cette époque, j'avais de très bonnes notes, donc j'étais la chef de classe. Tous les chefs de classe devaient participer au syndicat étudiant de l'école. Le jour où j'ai été arrêtée, les policiers m'ont expliqué que le chef du syndicat étudiant était communiste et qu'il s'était enfui. Ils m'ont donc dit que j'étais moi aussi communiste. Je leur ai dit que non, mais ils n'ont rien voulu entendre et ils ont conclu que tous les membres du syndicat étaient aussi communistes. Un peu plus tard, ils m'ont demandé depuis combien de temps j'étais dans le syndicat. J'ai répondu 4 ans. Ils ont conclu que j'étais communiste depuis 4 ans. Pourtant, je n'avais que 18 ans. Et c'est pour ça que j'ai été condamnée à une peine si lourde.
Quand
Quand j'ai été arrêtée, j'ai été enfermée dans une chambre avec une dizaine de personnes. Après cela, j'ai eu une discussion avec l'agent des renseignements. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas participé au groupe communiste. Ils m'ont dit que si. Et voilà, c'était fini.
Avec cette accusation expéditive, et sûrement en raison de son jeune âge, Zhang Changmei échappe à la torture. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes arrêtées. Son mari, également prisonnier à l'époque et aujourd'hui décédé, a laissé un album de croquis des supplices subis par ses co-détenus.
Là, sur cette image, ils arrachaient les ongles des prisonniers en leur demandant s'ils étaient communistes. Et sur celle-ci, il les recouvrait de miel et les mettait au milieu des fourmis. Ces tortures avaient lieu dans les bâtiments où on gardait les gens qui venaient d'être arrêtés. La nuit, on les appelait un par un pour qu'ils puissent avouer qu'ils étaient communistes. Le papier était déjà écrit, tout était déjà écrit. Ils voulaient juste les faire avouer et signer.
Madame Zhang, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cet interrogatoire ?
Après ces tortures, après ces interrogations, ils nous ont emmenés dans un centre de détention militaire. Quand ils ont annoncé le verdict, il y avait une soixantaine d'accusés, mais je ne connaissais personne. Une partie a été condamnée à mort, une autre a été condamnée à de la prison à vie ou pour des dizaines d'années. Après cette arrestation, on a été transféré dans des prisons différentes, à Tainan, dans le sud du pays, et à Taipei. Mais au bout d'un moment, toutes les prisons étaient pleines. Donc on a été transféré sur l'île verte, où je suis restée pendant une dizaine d'années. C'est une île isolée, d'où on ne peut pas s'enfuir. Là-bas, j'avais des cours sur les trois principes de peuple de Suanixian, et on devait faire des travaux forcés, comme aller chercher de l'eau ou travailler dans les champs.
Zhang Changmei passe plus de 10 ans en prison, et quand elle sort, la loi martiale est toujours en vigueur. Elle continue d'être étiquetée comme une espion communiste et suivie par le Kuomintang. Ce n'est qu'après la démocratisation de Taïwan dans les années 90 qu'elle témoignera enfin. Aujourd'hui encore, elle n'a pas pardonné au Kuomintang.
Pourquoi je dois leur pardonner ? Je n'ai pas beaucoup de raisons de pardonner. Ils ont tué tellement de monde. Si ta famille est tuée à ce moment-là, est-ce que tu vas leur pardonner ? J'ai vu des enfants qui ont tellement pleuré après la mort de leurs parents. Je ne peux pas oublier.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Nous sommes à Taïwan avec notre correspondant à Taipei, Adrien Simor. Nous sommes à l'écoute des citoyens, des historiens et des victimes dont les actions et les témoignages éclairent une période méconnue de l'histoire de l'île annexée par la Chine en 1945. Ils nous racontent la Terreur Blanche. Après le massacre de février 1947, premier acte de cette répression politique, les cibles de la répression nationaliste sont en majorité des Chinois venus du continent et accusés de soutenir ceux que le pouvoir appelle les bandits communistes. Monsieur Zhang est né dans la province chinoise du Hebei en 1929. En pleine guerre civile entre les communistes et le KMT, le Kuomintang, cet étudiant en médecine militaire choisit de quitter Pékin pour se rendre à Taïwan. Il embarque alors sur un bateau pour étudier à l'Université nationale de Taïwan.
Ma première impression de Taïwan, c'est que les gens et la vie ici étaient simples, pas comme en Chine. Les gens étaient simples, sympathiques, et la plupart des gens portaient des sabots ou bien même ils marchaient pieds nus. Ce que j'aimais bien, c'était quand je prenais le train de Taipei vers le sud, les deux côtés du rail étaient tous des rizières. Et en voyant ça, j'étais très content. C'était une très bonne ambiance. Et deux soirs par semaine, je participais à un cours de psychologie pratique. J'aimais bien le professeur. Je pense qu'il enseignait très bien. Le cours a duré un mois environ et soudain, le professeur a disparu. Le 20 mai 1950, j'ai été convoqué par un militaire de l'école qui était en charge de la discipline des étudiants de l'université à l'époque. C'était soi-disant pour me questionner sur ce que je fais et c'était censé durer une heure ou deux. Mais je n'ai jamais été libéré après cette série de questions et j'ai été emprisonné pendant 10 ans. Selon les archives, tout est clair. Le professeur qui enseignait la psychologie pratique était un agent chinois. Et pour le Kuomintang, moi j'étais un membre suspecté d'être communiste. Et c'est pour ça que j'étais arrêté. Parmi les étudiants qui ont participé au cours de psychologie, il y en avait qui ont été arrêtés. La plupart d'eux ont été fusillés et seulement l'un d'entre tous ceux qui ont été arrêtés a été relâché.
Monsieur Zhang, en tant que Chinois venu du continent, comment se passe alors votre détention à Taïwan et quel est le profil des personnes détenues avec vous ?
J'ai été à tour de suite emprisonné à la prison de Taipei, ensuite à la prison de l'île verte, et nous avions des cours pendant la journée, également des travaux forcés. Et pendant les cours, on nous apprenait que les trois principes du peuple de Sun Yat-sen étaient bons, étaient le meilleur, et que les communistes étaient mauvais. Les communistes, on les appelait les bandits communistes. Pendant les cours, on nous forçait d'apprendre ça. Il n'y avait pas d'esprit critique. On ne posait pas de questions. Quand j'étais en prison, je ne connaissais qu'un seul prisonnier qui supportait l'indépendance de Taïwan. Tous les autres étaient soi-disant communistes. Mais après 1965, le nombre des prisonniers supportant l'indépendance de Taïwan avait augmenté.
Tandis que la répression sévit à l'intérieur de l'île de Taïwan, Le régime de Chiang Kai-shek est soutenu par les Américains. Avec l'installation de la guerre froide entre Washington et Moscou, le déclenchement de la guerre de Corée incite les États-Unis à interposer sa flotte dans le détroit de Taïwan, rendant tout débarquement communiste impossible. Le régime de Taïwan incarne désormais la Chine libre et conserve jusqu'en 1971 le siège de la Chine à l'ONU, ainsi que le siège permanent du Conseil de sécurité. Et pourtant, le régime de Chiang Kai-shek continue à invoquer la menace communiste pour réprimer indifféremment les Taïwanais, qu'ils soient originaires du continent chinois ou bien de l'île de Taïwan. Bien que les réseaux communistes soient démantelés depuis les années 60 à Taïwan, la terreur blanche existe toujours. Mais une partie des Taïwanais commence alors à se fédérer autour de l'idée d'indépendance et de démocratie. Monsieur Wu est l'un des pères fondateurs de ce mouvement.
En 1945, quand les Chinois sont arrivés à Taïwan, mon père était très content. Il a remis son costume qu'il avait mis quand il s'est marié et il marchait avec dans le village tous les jours. Et mon grand-père, il était né sous la dynastie chinoise de Qing. Il était très content car il disait que quand il allait mourir, Taïwan allait aussi être gouverné par la Chine. Mais deux ans après, mon grand frère, il était au lycée, il a été arrêté et enfermé pendant 12 ans. La seule raison, c'est qu'il a participé à un club de lecture. C'était la seule raison. J'étais encore très jeune à ce moment-là. J'avais 11 et 12 ans, mais ce qui s'est passé dans ma famille m'a beaucoup marqué. Un peu plus tard, au lycée, je me rappelle, près du terrain de sport, il y avait des corps. C'était des gens qui avaient été exécutés par le Kuomintang. J'ai commencé à me dire, mais quel pouvoir peut jeter les corps des gens dans la rue comme ça? Je ne comprenais pas encore l'indépendance à ce moment-là, mais je savais qu'on ne pouvait pas accepter ce pouvoir terrible.
Monsieur Wu, justement, à partir de quand est-ce que cette idée d'indépendance de Taïwan commence à émerger chez vous?
Je ne pouvais pas trop en parler jusqu'au moment où je suis allé à l'Université nationale de Taïwan. Là, c'était plus libre pour la pensée. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à échanger avec des amis et former mes idées par rapport à l'indépendance de Taïwan et par rapport au communisme. J'ai compris que le problème de Taïwan, ce n'était pas quel genre d'idée politique on soutient. Le problème, c'est que pas indépendant. On n'a pas notre propre pays et on sera donc toujours opprimé par quelqu'un d'autre.
Monsieur Wu, à ce moment-là, comment est-ce que vous parvenez à vous organiser pour justement défendre ces idées de l'indépendance de Taïwan?
Notre idée, c'était de parler de la démocratie, mais non de l'indépendance. Car la démocratie, c'était aussi quelque chose dont parlait Chiang Kai-shek. Donc, par exemple, à Taipei, on a commencé à organiser des réunions en forme de banhui, c'est-à-dire des réunions de gangsters, parce que la peine était moins lourde si on se fait arrêter.
Monsieur Wu, en 1964, un des leaders de ce jeune mouvement, Peng Mingming, est arrêté pour avoir imprimé un tract en faveur de la démocratie à Taïwan. Et vous-même, vous échappez de peu à une arrestation. Quel a été l'impact de ces arrestations sur votre propre engagement?
Je ne voulais pas arrêter, mais j'ai pris conscience que c'était impossible de faire quelque chose sous un régime aussi autoritaire. Il fallait avoir le soutien international. C'est pour cela qu'on est parti à l'étranger pour pouvoir s'organiser et se réunir ailleurs. les gens qui étaient déjà à l'étranger nous ont encouragés à partir. Au premier jour de mon arrivée aux États-Unis, à Los Angeles, il y avait le frère de ma femme qui était le chef de l'Association pour l'indépendance de Taïwan. Il est venu à l'aéroport avec un papier dans ses mains. C'était une attestation sur l'honneur pour participer à l'association et j'ai tout de suite signé en descendant de l'avion.
Grâce à l'implication des militants pour la démocratie et pour l'indépendance, soutenus par l'importante diaspora taïwanaise, le parti unique du Kuomintang entreprend de démocratiser. Nous sommes dans les années 90, Chiang Kai-shek est mort et la société civile fait pression. Elle est portée par une classe moyenne enrichie par le développement économique taïwanais, mais aussi par une nouvelle génération de cadres du Kuomintang. Mais un chantier reste ouvert. À Taïwan, aucun responsable de la terreur blanche n'a officiellement été jugé, comme l'explique Zhen Yu, membre de la commission de justice transitionnelle.
Aujourd'hui, quand on voudrait vraiment faire une enquête sur des participants de cette chaîne de répression, vous pouvez imaginer, ça crée beaucoup de soucis, même voire des angoisses parmi la population. Tout le monde sait Chiang Kai-shek et son fils Chiang Ching-kuo est responsable pour le massacre et aussi pour la répression sanglante pendant plus de 40 ans. Mais les gens n'osent pas demander qu'on trouve le responsable. Il faut beaucoup de travail d'éducation et aussi beaucoup de promesses qu'on ne va pas porter plainte contre tout le monde, on ne va pas faire les procès contre tout le monde. Notre travail de trouver les responsables, c'est vraiment pour montrer comment le régime répressif fonctionne. C'est vraiment un travail de mémoire, de dévoilement, vraiment d'avoir le courage de faire face à l'histoire. Je pense qu'il faut encore beaucoup de temps pour faire comprendre à la population. Même pour moi, un intellectuel d'aujourd'hui qui a fait ses études, son doctorat en France, même moi, quand j'appelle Chiang Kai-shek dictateur, au fond de moi, il y avait quelque chose qui cloche en fait. J'étais pas à l'aise en fait avec ces nominations-là. Donc vous pouvez voir, c'est complètement entré dans notre inconscient. Donc on se sent coupable de nommer Chiang Kai-shek en tant que dictateur.
Janu, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de faire la lumière sur ce passé?
Pour moi, c'est très important parce que, comme j'ai une formation psychanalytique, je vois non seulement au niveau personnel ou familial, si on cherche à cacher cette histoire douloureuse, on a tendance de répéter justement. C'est ce qu'on appelle la répétition compulsive. Si on ne fait pas ce travail de réflexion, on n'arrive pas à identifier l'héritage de l'idéologie autoritaire qui reste encore en nous. Et pour comprendre le vrai sens de démocratie et pourquoi c'est important de respecter le droit de l'homme, nous aussi on a la responsabilité de surveiller le gouvernement pour qu'il ne respecte pas le tort historique.
La nuit aujourd'hui encore, on entend certains discours, notamment au sein du Kuomintang, qui défendent un petit peu cette période en disant qu'elle était nécessaire pour empêcher que Taïwan soit récupérée par la Chine communiste et qui finalement a permis de protéger Taïwan. Et est-ce que ce discours, il se tient historiquement? Est-ce que ça vous semble justifié de défendre la terreur blanche par cet argument?
Bien sûr, c'est le discours de KMT depuis très longtemps et encore aujourd'hui, il tient ce discours-là. Mais si on voit l'histoire, en fait, à partir de la guerre en Corée, finalement, les Américains ont été obligés, en fait, de collaborer avec Chiang Kai-shek. Cette peur qu'il y aurait une invasion communiste est complètement infondée. Mais même après la protection des Américains, le KMT continue à arrêter beaucoup de dissidents. Et cette répression politique dure jusqu'à des années 80. À partir des années 60, 70, la plupart des cas ont été des cas fabriqués. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong, c'est exactement ce qui se passe à Taïwan dans les années fin 50 jusqu'à des années 80.
Jenny, en parlant de Hong Kong, il y a eu plusieurs manifestations de soutien au mouvement démocrate hongkongais à Taïwan, justement sur cette place de la liberté ici à Taipei. C'est évidemment parce que Taïwan continue d'être revendiqué par la Chine communiste, donc il y a un élan de solidarité qui s'est créé entre les Taïwanais et les Hongkongais. Et quand on va dans ces manifestations, très souvent, les Taïwanais et surtout les jeunes font référence au massacre de 1947 ou à la Terreur blanche. Genius, selon vous, en quoi cette mémoire elle est importante pour les Taïwanais aujourd'hui? Et est-ce que quelque part elle permet d'expliquer l'attachement des Taïwanais à leur système démocratique?
La plupart des jeunes pensent que la démocratisation à Taïwan est déjà mûre. ils sont fiers d'ailleurs que à Taïwan on est presque le premier pays, le pays le plus libre et démocratique en Asie. Mais aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que, à travers Hong Kong, on peut retourner en arrière. C'est pour ça qu'ils commencent à vraiment dévorer tous les livres historiques sur le massacre et aussi sur la Terreur blanche. En quelque sorte, presque, ils voudraient se préparer pour pouvoir empêcher le retour en arrière de l'histoire à Taïwan.
Qu'est-ce qui serait sage de faire avec cette statue, justement? Ça suscite beaucoup, beaucoup de débats à Taïwan. Vous qui avez travaillé sur le sujet, qu'est-ce qui serait sain de faire avec cette immense statue de Chiang Kai-shek en plein cœur de Taipei?
Il y a beaucoup de gens, en fait, qui préconisent de complètement détruire non seulement cette statue, aussi tout ce Memorial Hall. Parce que, pour eux... Puisque ça a été construit pour vénérer l'empereur, pour vénérer le dictateur, donc il faut tout éliminer. Mais je crois que si on l'élimine, on va effacer aussi la trace d'histoire, c'est-à-dire on va effacer comment dans ce pays-là, le dictateur a été soutenu par la population. Donc au lieu de les éliminer, je crois qu'il faut trouver un autre regard pour expliquer pourquoi on avait cette vision d'hommes à cette époque, mais aujourd'hui, comment il faut revoir l'histoire?
Aujourd'hui, la démocratie fait consensus à Taïwan, y compris dans les rangs du Kuomintang. Passé dans l'opposition, le parti doit faire face au désaveu grandissant de la jeunesse taïwanaise, toujours plus nombreuse à se prononcer en faveur de l'indépendance de son île. Un sentiment national qui se construit tout autant dans un refus de l'ancien régime autoritaire du Kuomintang que de celui de la Chine communiste. Taïwan, cet archipel de 24 millions d'habitants situé au large des côtes chinoises, est encore aujourd'hui revendiqué par Pékin. Taïwan, un long chemin vers la démocratie, c'était un reportage long format proposé par Adrien Simor, réalisé par Sophie Janin et produit par Valérie Nivelon. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre podcast, cette émission c'est la vôtre.